Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches de 12h à 13h et c'est avec Maurice Sefti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric. Selva, Sierra, Costa et puis Mar.
Bien, on se trouve où donc avec tout ça?
Quand on, Selva. Quand on dit Sierra, quand on dit Costa, quand on dit Selva, quand on dit El Mar, eh bien, il n'y a qu'un pays qui a ces quatre surfaces, ces quatre régions qui interviennent les unes derrière les autres, c'est le Pérou. Le Pérou, parce que vous avez cette mer incroyable qui est infinie à l'horizon, c'est le Pacifique. Vous avez cette côte incroyable aussi, parce que souvent complètement désertique. Ensuite, vous avez la Sierra, avec les plus hauts sommets pratiquement de l'Amérique du Sud, enfin parmi les plus hauts sommets. Et puis ensuite, vous avez de nouveau une mer de verdure incroyable qui peut continuer comme cela jusqu'à l'Atlantique si vous faites une petite inclusion avec cet énorme Brésil qui suit la selva péruvienne. Mmh. Et quand on parle de cette région, eh bien, il faut regarder sur la carte. C'est la première chose qu'il faut voir. On est en fait en pleine zone tropicale. Le Pérou est un pays tropical.
Mais c'est en altitude quand même, le Pérou.
Mais justement, il y a tout. C'est ça qui est impressionnant. C'est que vous avez d'abord, si vous êtes au sud, là vous êtes à peu près au 18e parallèle, donc vous êtes déjà très très bas sur la carte du monde. Et vous avez tout à coup 2000 km du nord au sud. Et puis vous avez quand même 1250 km en largeur. Parce que c'est un peu en largeur que je découpais cela tout à l'heure. Et ce Pérou, eh bien, c'est peut-être...
C'est-à-dire à chaque changement de
climatique ou de région,
1200 km.
Non, 1200 km, c'est la traversée complète des terres péruviennes.
Ah, d'accord. Hein,
mais ça représente justement des différences énormes sur une distance qui paraît déjà longue, mais qui en fait est assez courte lorsqu'on la vit sur place, dans la mesure où vous passez d'un seul coup de la mer à la côte et qui monte rapidement vers la Sierra, vers ces immenses sommets, les différentes cordillères qui vont découper carrément comme une sorte d'échine, une épine dorsale comme cela. Et puis de l'autre côté, alors c'est incroyable, descente rapide vers l'Amazone. Vous vous rappelez du film Aguirre ou la colère de Dieu, où justement d'un seul coup on se voit avec un espèce de zigzag incroyable dans la montagne, cette caravane fantastique qui descend dans l'Amazone et qui va s'installer sur les grandes rivières pour glisser petit à petit. D'accord, on parle de l'équateur, mais c'est exactement identique. Cette cordillère continue carrément, elle vient carrément des doigts écartés de la Colombie, hein, qui s'éclate comme ça sur le nord du continent, puis ensuite ça se resserre très fortement à l'équateur. Ça, c'est carrément le poignet qui est le plus serré, et puis ensuite vous avez le bras complet qui descend jusqu'au Chili et qui se termine carrément sur la pointe de la Terre de Feu, grosso modo. Et le Pérou, eh bien, c'est le gros morceau. C'est le morceau le plus contrasté. Alors, je disais que c'est un pays tropical, c'est vrai, mais vous avez surtout cette impression que vous êtes dans le pays le plus contrasté de toute l'Amérique. Et si je reprenais, par exemple, la côte qui est à la fois désertique et qui, curieusement, est en même temps nuageuse. Alors ça surprend beaucoup parce qu'elle est baignée par un océan qui est extrêmement froid, avec une faune incroyablement riche, et vous avez une cinquantaine de vallées qui coupent perpendiculairement. Vous avez fait le dessin, hein, on était parti de la verticale comme ceci, on avait créé des lignes comme ceci, et dans l'autre sens, eh bien, de façon parallèle, vous avez véritablement ces perpendiculaires et ce désert qui est formé avec des oasis qui sont d'une verdure. Enfin, il y a des oasis vertes comme ça, je crois que je n'en ai jamais vu dans le monde, aussi incroyablement marquées dans leur contraste avec le désert qui se trouve juste à côté. Mais là, alors, vous avez des zones cultivées, et puis vous avez cette frange pacifique qui est à la fois aride et qui est dominée à l'est par les Andes, dont ce côté extrêmement massif, cette hauteur moyenne où vous avez encore une sécheresse qui s'accroît de plus en plus lorsqu'on descend vers le sud. Et puis cette côte désertique, cette haute montagne qui gentiment va s'opposer à la descente vers l'est que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire vers les grandes étendues de l'Amazonie. Et puis vous avez là alors d'importantes précipitations. Naturellement, c'est le côté le plus arrosé du Pérou, avec une végétation incroyable. Il y a une exubérance qui correspond tout à fait à l'idée qu'on se fait, alors là, véritablement des tropiques. Hein. Et ça n'est que là qu'on trouve les véritables tropiques au Pérou. Et si j'ai parlé de ces quatre zones, eh bien c'est parce qu'on oublie souvent que lorsqu'on cite le Pérou, on dit toujours Selva, on dit toujours Sierra et Costa, mais on oublie cet océan Pacifique qui a quand même à peu près, je sais pas, il y a quelque chose comme 200 000 qui sont considérés comme territoire pour le Pérou. Donc la mer est tout aussi exploitable que le pays lui-même, d'autant plus que c'est le pays le plus riche du monde au point de vue petite bestiole, c'est-à-dire le côté poissonneux de cette mer est absolument incroyable. C'est le pays qui produit le plus par la pêche, naturellement, je dirais de farine d'abord, hein, la farine de poisson qui est quand même ce qu'on utilise le plus et qu'on transforme, ces millions et ces millions de tonnes de poissons, surtout en farine. Alors on le sait quand on arrive au Pérou parce que c'est la chose qui vous donne. Ah oui, ça c'est terrifiant, suivant la ville où vous vous trouvez sur la côte, c'est vraiment la chose qui nous touche le plus. Alors cette côte pacifique, je dirais qu'elle comporte d'abord la plus grande partie de la population du Pérou, c'est important de le savoir, tout le monde vit ici pratiquement, il y a une sorte de un côté un peu agglutiné, et vous avez les industries, vous avez les plus grands axes de communication, l'axe de communication que vous connaissez sûrement, puisqu'on le suit de temps à autre dans nos balades en Amérique latine, eh ben c'est justement celle qui part carrément de l'Alaska et qui va jusqu'en bas, c'est la fameuse voie américaine typique, la panaméricaine, qui va vraiment du nord au sud. Et puis vous avez quand même sur cette côte, d'abord la capitale, Lima, et puis le plus grand aéroport du pays.
Lima, c'est en altitude, hein.
Lima est tout à fait sur la côte. Vous ne pouvez pas être plus en bas que Lima. Vous confondez avec Cusco, Frédéric. Cusco,
oui, je dois confondre avec oui,
Cusco était l'ancienne capitale inca et elle se
trouve. Moi, c'est cette image que j'ai du Pérou.
À 3800 mètres.
Voilà, c'est ça.
Oui,
ça, ouais.
C'était vraiment la capitale de l'empire inca. Et l'inca était un homme d'altitude, donc il avait créé tout son système routier, justement, du nord au sud, presque aussi impressionnant que la panaméricaine, puisqu'il y avait plus de 5000 kilomètres de voies qui avaient été créées à l'époque précolombienne. Et bien, tout ceci était plus ou moins oublié en faveur de Lima, qui obligatoirement a été créé de toutes pièces par les Espagnols pour des raisons maritimes. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement trouver un port du côté pacifique qui permette de remonter la côte et d'arriver jusqu'au Darién, ce qui est le Panama actuel. Et puis là, on traversait carrément par voie de terre à travers ce Darién qui était complètement tropical. Alors là, difficile de trouver des jungles plus désagréables, si vous voulez, au point de vue marche et au point de vue transit. Et de l'autre côté du Darién, eh bien, on chargeait les marchandises et puis on repartait sur Veracruz, sur Saint-Domingue et naturellement sur l'Espagne. Alors non, Lima est vraiment dans une de ces vallées, ces oasis de la côte et ça se trouve auprès d'une petite rivière qui s'appelle Rimac. Rimac, Lima, il y a une sorte de déformation et voilà une ville qui a été fondée en fait uniquement en 1536, c'est-à-dire quelques mois après la conquête du Pérou qui a commencé en 1532 véritablement. Cusco, que vous évoquiez tout à l'heure, est tombé en 1533.
Donc qui a conquis en fait?
Les Espagnols et particulièrement Francisco Pizarro.
C'est étonnant quand même.
Oui, Espagnols. Bien sûr, quand on les voit arriver d'abord au Mexique, c'est une sorte de doublon. On en reparlera de la conquête, bien sûr, mais ce qui est fabuleux, c'est d'avoir créé cette ville de toutes pièces dans un endroit qui est extrêmement désagréable. Alors, je dirais désagréable parce que ce qu'on décrit sur la côte, et on va le faire maintenant, c'est qu'on est assez troublé par un climat qui nous paraît extrêmement doux d'abord. Sachez que, je ne sais pas, au mois de décembre, au mois de janvier, il fait par exemple 20 degrés sur cette côte, c'est naturellement l'été, c'est le plein été péruvien. Et puis quand vous allez carrément avancer dans la saison, en juillet, en août, eh bien vous avez 15 degrés de moyenne à Lima toujours. Donc une température qui change très peu, 5 degrés d'amplitude sur l'année, c'est extrêmement peu. Alors je dirais que pour cela, la côte est douce, terriblement douce. Insecurities about the way I feel.
à l'heure, vous, Maurice, vous disiez que le climat était désastreux et pourtant 20 degrés, c'est quand même pas si mal que ça.
Alors attention, la douceur de Lima, je crois qu'il faut la compenser par l'humidité relative. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que elle est constamment forte. Je pense quelque chose comme 80-90 degrés d'humidité en constance, ça c'est la moyenne. Et puis quand je parle de saturation, c'est que c'est très vite atteint. Alors franchement, ça peut être très désagréable puisque
on est complètement
Il tombe quelque
trempé toute la journée.
Il
non
tombe quelque chose d'assez curieux.
Une sorte de bruine.
Le matin, il y a cette même en fin de nuit comme ça, vous avez cette sorte de bruine qu'on appelle sur place la garoua. La garoua, elle peut parfois être tenace au point de rester là toute la journée. Alors en hiver surtout. En hiver, donc lors de notre été, c'est-à-dire en plein mois de juillet à Lima, eh bien, vous avez l'impression comme ça d'être humide du matin au soir. Vous avez ça qui vous tombe sur le nez, vos habits sont juste un peu humides. C'est une sorte de, on appelle ça des brumisateurs, vous savez, on a l'impression qu'on est face à une petite bombe là qui vous arrose sans cesse. Et bon, l'hiver est d'abord très long, puisqu'on parle toujours de Lima, ça dure à peu près 6 mois, hein, ce climat-là.
Comme chez nous.
Oui, mais c'est assez désagréable puisque vous avez cette grisaille absolument généralisé. Vous avez un plafond qui est extrêmement bas et qui rend la lumière particulièrement blanche. C'est quelque chose d'assez curieux. Quand je pense à l'image, je vois à la fois du gris-jaune, et puis là je parle des rues, je parle de... Tout est à la fois poisseux, poussiéreux, puisque le désert est à côté, et puis en même temps cette bruine comme ça qui tombe. Alors c'est difficilement supportable, et vous avez l'impression d'être sous un matelas nuageux, et c'est quelque chose d'assez curieux, parce que quand vous arrivez à Lima par voie aérienne, eh bien vous voyez vraiment... tout d'abord cette espèce de matelas brumeux qui longe comme ça la côte et puis qui s'insinue, vous savez, comme quelque chose de très doux, comme ça glisse, ça s'insinue dans les vallées et puis ça détache tout, ça crée une sorte de découpage curieux, ça laisse de temps à autre émerger quelques cerros, comme ça, quelques sommets et vous avez l'impression de voir des îlots qui sont carrément alors touchés par un soleil qui a une puissance fantastique et ensuite vous êtes plongé carrément dans le brouillard à partir de 600... je dirais même 800 mètres jusqu'à, bon, ça dépend de la saison, mais en tout cas à 200-400 mètres d'altitude, il y a toujours du brouillard à cette saison, donc en dessous bien sûr. Et heureusement, vous avez un été quand même sur cette côte. Et entre décembre et mars, grosso modo, eh bien le ciel est alors souvent bleu, carrément un beau bleu. Ce bleu qui surprend toujours au Pérou, où que l'on soit. Hein, en altitude, vous avez des bleus qui tournent carrément, plus vous montez, vous tournez carrément au violet. Hein, une pureté de l'air absolument fantastique, parce que dans un désert côtier, comme ça, qui fait quelques centaines de kilomètres obligatoirement, dès que les températures sont assez chaudes, bon, quand je dis chaudes, vous avez compris qu'il n'y avait rien d'excessif, hein, ça peut être 20 degrés, mais les nuits restent encore assez fraîches, ça c'est normal, et puis vous avez cette disparition du brouillard et de la grisaille qui transforme complètement le paysage. Alors vous avez des couleurs, les couleurs du désert, ça ressort terriblement, hein, ça a une force fantastique. Alors là, vous avez du jaune, vous avez des tons blanchâtres, des couleurs grisailles comme ça, mais avec une intensité, on a l'impression qu'on sort une palette très éclairée. Et puis vous reconnaissez aussi alors une ville sous un aspect tellement différent. Lima à ce moment-là, vous l'avez toujours vue grise, vous l'avez vue poussiéreuse. Ben non, à ce moment-là, l'éclairage vous permet de respirer comme ça. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire à Lima, c'est que
l'été dure 6 mois là-bas.
Ben, l'été dure 6 mois, mais les horaires d'été, ce qu'on appelle l'horario de verano, eh bien pendant tout le mois de décembre, on vous donne congé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été institué pour tous.
Quand, en vacances pendant 6 mois.
On vous fait travailler quelques heures par jour. Ensuite, on vous libère.
Ah, hein. C'est une bonne chose.
Et alors là, vous imaginez les plages. Il y a des plages sur le Pacifique qui font des kilomètres et des kilomètres. Ils sont très, très larges. Alors, on est surpris comme ça quand on arrive à Lima et qu'on voit des stations. Bon, je dirais même pas des stations, mais des baraquements balnéaires. Mais on se dit, mais c'est pas possible. C'est la Normandie. Ça peut pas exister. Et puis tout à coup, là, juste au moment de Noël, vous avez carrément toute la ville de Lima qui part sur la plage. Dès qu'il y a un peu de soleil, on en profite. On se gave carrément de vitamine D. C'est quelque chose de curieux. Je crois que c'est une des seules villes où je connais ce phénomène de façon aussi marquée. Et puis, il y a quand même quelque chose de fou aussi dans cette région de la côte, c'est tout ce qui dépend d'un... Comment est-ce qu'on va l'appeler? Ben, c'est un anticyclone. Hein, on en parle souvent pour les Açores, mais il en existe un là, justement, dans ce Pacifique. Et c'est ce qui nous explique ce climat extrêmement particulier, cette sécheresse, et puis ces températures qui, malgré tout, je vous disais tout à l'heure qu'on était sous les tropiques. 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, c'est extrêmement bas, finalement. Alors, il ne faut pas oublier que lorsque vous parlez de cette région, bon, si vous parlez de la Colombie en haut, le Panama, vous avez des températures qui montent carrément à 23, 30, 40 degrés. Et puis là, en descendant, vous êtes pratiquement encore plus normalement dans les pays chauds, eh bien là, au contraire, vous avez, si vous avez, je prends la fin de l'Équateur ou le Panama, vous avez une végétation exubérante, vous avez des mangroves partout, vous avez l'impression qu'effectivement, vous êtes dans la jungle. Mais il y a le fameux courant de Humboldt. C'est vraiment ce qu'on appelle le courant péruvien. Et là, vous allez comprendre qu'il longe toute la côte du Pérou. Il déplace véritablement des eaux, je vais pas dire glacées, mais des eaux très, très, très froides pour l'endroit où nous sommes. Parce que l'eau, lorsque vous mettez votre doigt dans le Pacifique, il fait à peu près 14 degrés. Hein, donc, c'est assez frisquounet. Et en l'occurrence, depuis le Chili jusqu'aux îles Galapagos, vous avez la même température. Alors, on a fait des études de ce phénomène. On a longtemps pensé que l'origine de ce courant venait de l'Antarctique, parce qu'il y a des eaux froides. Mais actuellement, là, je vais être un petit peu plus détailliste, un petit peu plus scientifique. Au niveau de nos connaissances, eh bien, on estime que toute la côte péruvienne, sans parler de la côte chilienne, est sous la dépendance de l'anticyclone du Pacifique Sud. Et vous allez voir que selon la saison, tout peut changer.
vous nous parliez de l'anticyclone tout à l'heure.
Eh oui, on va faire un peu de météo là, si vous le voulez bien. Non, mais c'est vrai que selon la saison, cette étrange chose qu'est l'anticyclone du Pacifique, il se déplace vers le nord ou vers le sud. Alors quand on regarde une fois de plus cette carte incroyable, les alizés soufflent et alors ils interviennent de manière extrêmement importante dans le déplacement vers le nord de ces eaux qui sont extrêmement froides et qui proviennent en fait de remontées profondes déjà depuis la côte chilienne. Alors en hiver, là, donc au mois de juillet, il faut être bien clair, l'anticyclone est remonté vers le nord. Alors au contact de ces eaux froides, les alizés se chargent d'humidité, ce qui est normal, et puis on forme des ce qu'on appelle des stratus en météo, bien sûr, une sorte de matelas de brouillard, et puis cette humidité, elle ne peut absolument pas se condenser, en tout cas elle ne peut pas être précipitée vers le sol, là on peut même pas avoir de pluie. C'est ça qui est intéressant parce que...
C'est ce qui donne cette brune en fait.
Oui, il existe pour vraiment expliquer la chose. Hein. Imaginez cela vers les 800 mètres d'altitude, lorsque le brouillard monte, ces nuages montent, eh bien, vous avez une inversion de température qui est extrêmement particulière. Au lieu de se refroidir, la température de l'air augmente. Alors, elle augmente simplement parce que l'influence refroidissante dont on a parlé pour les eaux du courant de Humboldt, eh bien, ça se fait plus sentir à partir de 800 mètres. Alors, en été, c'était en plein mois de janvier, c'est l'inverse. L'anticyclone est rejeté vers le sud et puis les alizés commencent à faiblir. Alors, c'est là que le ciel commence à se dégager et c'est à cette époque que se produit le long de la côte, en tout cas au nord Pérou, ce phénomène qui est connu sous le nom de Niño. Niño, c'est l'enfant Jésus, donc obligatoirement on l'a appelé comme ça à cause du moment de Noël, c'est le moment où il commence à se réveiller, c'est le moment où il naît véritablement. Alors des eaux chaudes qui viennent de la région équatoriale descendent depuis l'équateur, elles dépassent parfois même Lima, qu'on évoquait tout à l'heure, ça passe même au-delà de la capitale. Alors ce qui est grave, c'est que ça fait fuir vers le large toute la faune qui est habituée aux eaux froides, en particulier les espèces qui sont exploitées, je pense à ces petits anchois, l'anchoveta, comme on l'appelle au Pérou, pour la pêche industrielle. Là, vous en avez des tonnes. Hein. Vous jetez vos filets, vous remplissez tout cela dans ces eaux froides. Et c'est alors que c'est véritablement une sorte... C'est quelque chose de terrifiant. C'est la ruine absolue de toutes les activités de pêche. Et ça peut se prolonger pendant des mois. Alors, le Pérou ne dispose pas d'une flotte de chalutiers qui est équipée de chambres froides, tout simplement, et qui pourrait conserver le poisson plusieurs jours, ce qui fait qu'on n'arrive plus à le suivre, on n'arrive plus à aller si loin. Et ça, il y a encore un phénomène qui est assez curieux. À la même époque que lorsqu'on parle de cette cordillère vers l'ouest, l'air humide amazonien peut même déclencher des précipitations qui sont terriblement importantes, qui peuvent être dangereuses. Et elles tombent sur un paysage, je le disais, qui est complètement désertique. Et où, alors à ce moment-là, vous avez des dégâts absolument incroyables parce qu'il n'y a rien qui est prévu contre ces déluges fantastiques. Et véritablement, quand je dis catastrophe, eh bien, prenons le cas de je crois que c'est en 1983, on a eu des pluies exceptionnelles sur la côte qui ont coïncidé en même temps avec une sécheresse incroyable. Il y a vraiment un côté, je dirais même un peu implacable comme cela. Et là, dans toutes les Andes du Sud, des phénomènes peuvent toujours se produire et on en retrouve... moi qui suis archéologue, je vous avoue qu'on voit très très bien comment, de manière préhistorique, ces phénomènes se sont produits. On le voit même pour l'époque coloniale. On a même eu la disparition de certaines villes comme Zania au 18e siècle.
À cause de la pluie.
Ah, carrément, c'est le déluge. Moi, j'ai vu cela en 83.
Glissement de terrain.
C'était à pleurer. Je veux dire, tous ces oasis, les uns derrière les autres, avaient des fois des crevasses véritables qui étaient dues à quelques minutes d'eau, quelques heures d'eau. Des villages entiers disparaissent. Il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. C'est toute la partie végétale, c'est tout ce qui est entretenu, tout ce qui est travaillé par l'homme peut disparaître en quelques minutes. Il ne reste que les gros cailloux, il ne reste que des épaves de villages. C'est vraiment, je crois, la catastrophe la plus terrifiante que l'on puisse imaginer. Et ça se reproduit de temps à autre comme cela. Et bien sûr qu'obligatoirement, à ce moment-là, le désert va verdir. Enfin, tout est bousculé. Tout ce qu'on imagine et qu'on vient de créer là sur le plan climatique est inversé. Et ça peut durer des mois avant que la situation s'améliore et puis qu'on ait le temps de reconstruire des ponts, des routes, etc. Ben, ces oasis, curieusement, ne sont pas arrosés véritablement. C'est de l'eau qui vient par les nappes phréatiques et qui descend doucement des Andes. Alors finalement, ce sont des ouèdes, un peu comme on les aurait au Sahara ou ailleurs. Mais quand il y a des trombes d'eau comme cela, eh bien tout à coup, tout cela s'ouvre, éclate et disparaît.
Alors, si vous venez de nous rejoindre à l'instant, aujourd'hui, dans ce soleil d'un jour, nous sommes au Pérou.
Un soleil bien curieux, Frédéric. Et nous étions le long de la côte, en fait. Cette côte qui a quand même une végétation, on l'a compris, extrêmement variée et variable, parce que la côte change du nord au sud de ce pays. Sur ces milliers de kilomètres, eh bien, au nord de Chiclayo, qui est déjà une ville assez... assez final, on est déjà beaucoup plus haut que Trujillo, et là il fait déjà plus chaud, c'est également une côte qui est plus humide, elle est marquée par ces pluies d'été qui sont assez irrégulières et qu'on évoquait tout à l'heure, auxquelles s'ajoutent encore les effets de la garoua qui a toujours lieu l'hiver, ben c'est constant.
La quoi ?
Et la garoua, vous savez, la petite bruine qui tombe d'un peu partout, et en l'occurrence ça favorise le développement, il y a quand même des arbustes, il y a des graminées, bon c'est bon pour les animaux tout ça, hein. Ça permet effectivement le développement de régions pastorales comme cela, et vous avez par exemple les caroubiers, ce qu'on appelle l'algarobo, c'est vraiment le caroubier typique, il est un peu poussé par le vent comme ça, il a des formes étranges, c'est un arbre extrêmement petit, et puis des acacias bien sûr, et au centre alors ou même vers le sud de la côte, eh bien souvent vous avez cette impression de brume constante, mais c'est beaucoup plus sec en même temps, là je parle du sol, et la température est également beaucoup plus fraîche. Alors je crois qu'il faut voir un peu à quoi correspond, disons, cette côte lorsqu'on commence à grimper. C'est-à-dire, dès que vous montez un tout petit peu en altitude, vous avez exactement ce qu'on imagine, c'est-à-dire à la fois le désert avec des oasis qui sont très productives. Alors, dès que vous vous éloignez du littoral, lorsqu'on commence à prendre un peu d'altitude, on entre dans un domaine désertique, mais alors totalement ensoleillé. C'est-à-dire, nous n'avons plus ce problème de brume qu'on a évoqué tout à l'heure, exactement comme on atterrissait à Lima. Vous vous rappelez de ces îlots et de cette façon de voir le début de la montée vers les Andes.
Et au niveau population, puisque vous disiez tout à l'heure que...
Alors ça, c'est encore la côte.
Tout est concentré à Lima.
Bien sûr qu'il y a les grandes villes, mais je veux dire par là que cette région, c'est un domaine où vers le sud, par exemple... Ce type de désert monte très très haut sur le versant pacifique des Andes et les paysages sont souvent rocheux. Là, vous avez raison, on n'a pas l'impression de voir beaucoup de vie, mais les versants sont taillés dans des roches extrêmement dures. Vous avez des granites, vous avez des roches aussi volcaniques. Les Andes sont jeunes, mais il y a eu une activité à la fois sédimentaire et volcanique. Et puis entre ces affleurements, eh bien, vous débouchez dans des grandes vallées qui ont de l'eau toute l'année. Alors obligatoirement, si vous en avez certes qui sont sèches, vous aurez obligatoirement ces différents cônes qui vont accompagner la bordure de côte. Je pense à, puisque vous évoquez Lima, le Rimac est accompagné d'une espèce de multitude de petites collines comme ça, ces cônes étranges sur lesquelles sont construits Lima. Et puis, vous avez raison Frédéric, c'est pourtant justement dans ce désert que les activités humaines, tant agricoles qu'industrielles, sont les plus importantes. Elles sont concentrées dans ces zones irriguées, justement les oasis qu'il coupe le long des rivières qui descendent des Andes. Alors là, vous avez une densité de population rurale qui est déjà très forte. On a grosso modo à peu près 250 habitants au kilomètre carré avec de gros villages et même le plus souvent des villes qui regroupent, je sais pas, je dois dire qu'au Pérou, ça doit représenter, je pense que 7 habitants sur 8 ou 9 doivent vivre dans les villes. Donc on a à peu près 80% de la population qui se trouve là.
Donc là, on est toujours sur la côte. Hein.
Oui, on ne peut pas parler de population rurale, bien que l'activité principale soit l'agriculture, mais les principales villes, il y a Lima. À Lima, je rajouterais Callao. Callao, c'est l'ancien port, c'est un quartier énorme qui est donc du côté maritime. On doit avoir actuellement dépassé les 7 millions d'habitants et presque le tiers de la population du Pérou se trouve ici dans cette immense agglomération. Lima est une ville faite de nombreuses villes comme ça. Et il y a différents quartiers, elle se trouve sur la côte qui regroupe pratiquement la moitié des habitants du pays, si je prends l'ensemble. Vous aviez ainsi sur je sais pas, il y a quelque chose ou 8 ou 10 000 kilomètres carrés d'oasis qui permettent de vivre comme cela sur la côte, et bien c'est là que se trouve pratiquement tout le monde. Et puis vous avez également les grandes exploitations agricoles qui étaient privées, qui ont été transformées d'ailleurs par la réforme agraire qui a eu lieu au Pérou, et je pense spécialement à l'époque du général Velasco, ça c'était dans les années 68-69, et en l'occurrence on en a fait des coopératives. Alors il y a quand même, quand on parle de coopérative, il y a obligatoirement de la technique qui est intervenue, hein. C'est-à-dire qu'on a pu créer quelque chose avec une bonne technicité, et vous avez des entreprises fantastiques sur le plan agricole, donc je dirais carrément qu'elles sont devenues industrielles. C'est impressionnant parce que c'est particulièrement le cas des grandes haciendas, ces haciendas sucrières. Et vous avez une hacienda que je trouve absolument incroyable qui s'appelle Casa Grande. Casa Grande, c'est une exploitation parfaitement intégrée avec la canne à sucre. On fait même, vous savez, le papier, le carton, on peut faire un tas de choses avec la canne une fois qu'elle est... on en a ressorti le jus de la canne à sucre, c'est-à-dire lorsque toute la partie sucrée est partie, eh bien vous pouvez même en faire du carton. Et il y a eu énormément de possibilités dans ces coopératives. Ça a un peu évolué, je dirais, depuis le Belaunde dans les années 80, depuis les militaires en 82. Il y a eu toutes sortes de mises en vente de ces coopératives et on a une sorte de démembrement de tout cela qui a été soit privatisé, soit laissé en copropriété. Et ça a été bloqué lors des élections, spécialement d'Alan Garcia, qui était un des derniers despotes du Pérou, avant que Fujimori bouscule encore tout cela. Et je dirais qu'à partir de 85, il y a une sorte de monoculture qui s'est créée. Là, je pense à la canne à sucre, je pense au coton. Et on a transformé tout cela. Maintenant, on trouve beaucoup plus facilement du riz, des haricots, des patates douces, de l'orge, du blé. Et là, on voit une augmentation de cette production secondaire. Et ça permet d'avoir des revenus plus faciles. Naturellement, le sol est moins travaillé et occupé que lorsqu'il n'y avait que de la canne à sucre.
Vous parliez de l'agriculture durant un bon moment, Maurice.
Oui, on était sur la route, là, driving, driving, il y avait sûrement un nid de poule à quelque part.
Oui, tout à fait. On parle un peu plus de la pêche.
Ah, vous voulez parler un peu de la mer, mais pourquoi pas? C'est vrai que le régime agricole a beaucoup évolué, mais la pêche aussi, c'est vrai. Cette pêche industrielle, je dirais qu'elle s'est établie il y a quand même assez peu de temps sur cette côte. Oh, grosso modo, l'invention de la pêche industrielle, ça doit être le milieu des années 50 à peu près. Et en fait, au Pérou, c'est devenu la production numéro un pratiquement. En tout cas, ça fait du Pérou le premier pays de pêche dans le monde. Hein. Je crois que je l'ai juste évoqué en entrée en parlant de ces quatre régions. Aujourd'hui, on ne s'est baladé que le long de la côte. Mais sachez quand même que la farine de poisson est la production principale, mais il y a aussi l'huile. Hein. L'huile qu'on arrive à retirer, il y a un côté sec et un côté huileux obligatoirement. Mais l'industrie de la pêche, elle a eu de nombreuses crises. Je dirais qu'elles sont dues à d'abord un développement peut-être un peu trop rapide, dans une ambiance... comment est-ce qu'il faut appeler ça à l'époque? C'est un capitalisme un tout petit peu sauvage. Hein. Le Pérou a connu des époques extrêmement critiques et puis il y a eu une surexploitation des fonds. Et puis il y a eu ces phénomènes climatiques, il y a eu des phénomènes hydrologiques, tout ce qu'on a évoqué par rapport au Niño et par rapport au courant de Humboldt. Donc il y a eu des mesures de nationalisation qui ont été prises dans les années 70 et puis il y a eu des efforts de rationalisation parce qu'il fallait quand même... Ce côté sauvage était très dangereux et finalement il y a eu un côté politique, il y a eu le côté économique, ça a conduit ensuite à une dénationalisation de cette industrie et je dirais que l'État a quand même conservé, et c'est encore le cas aujourd'hui, le monopole de l'exportation de tous ces produits qui dépendent de la pêche. Alors ce sont des sommes et des poids surtout absolument fantastiques. À la fin des années 80, je crois que c'est à peu près les derniers chiffres que j'ai, eh bien, on avait à peu près 5 millions de tonnes qui étaient capturées. 5 millions de tonnes,
c'est énorme.
5 millions de fois 1000 kilos, c'est vrai que c'est rien que le chiffre est déjà impressionnant et ça monte comme ça de façon incroyable aussi parce que une fois la fin des années, on est passé à 6 millions, 7 millions, donc on sent que c'est l'explosion absolue. Et puis il y a les Japonais qui s'en sont mêlés, enfin, il y a eu tous les étrangers qui sont venus voir si ces 200 000 de côte étaient aussi intéressants que cela. Donc c'est une véritable foire d'empoigne. Quand on est le pays producteur le plus riche, obligatoirement, vous attirez tout le monde. Hein. C'est un peu comme les oiseaux qui, eux, vont mourir au Pérou. S'il y a autant d'oiseaux sur les côtes péruviennes, s'il y a autant de guano sur les îles qui longent
les
côtes pacifiques, c'est parce qu'il y a beaucoup de petits poissons. Mmh. Et obligatoirement, j'ai parlé de richesse, on a vu l'agriculture, on a vu maintenant le côté maritime. Obligatoirement, le développement des villes a connu exactement la même pente, hein. une sorte de fulgurance au cours de ces 30 dernières années. Imaginez-vous, en 30 ans, les villes de la côte se sont multipliées par 5 en population. C'est effarant. En l'occurrence, vous avez d'immenses bidonvilles, et ça je crois qu'il faut les citer parce qu'on les appelle des pueblos jóvenes. Des peuplements jeunes, ça c'est une terminologie qui était un peu révolutionnaire sous le régime du général Velasco. En fait, sur place, on les appelle des barriadas, c'est beaucoup plus prosaïque. Et je dirais que c'est vraiment des bidonvilles sont les endroits d'immigration qui sont incroyables parce que vous avez des milliers, des millions de personnes qui descendent de la Sierra. À Lima, ça représente la moitié de la population, des gens qui n'ont rien à faire à Lima finalement, qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus des terres d'altitude. Et là, eh bien, on comprend mieux que quand vous avez ces constructions légères, vous savez que tout est fait en pisé, c'est simplement de l'adobe. Vous avez des maisons qui sont faites en roseau, les esteras, c'est simplement des joncs comme ça qui sont plantés en terre. Vous avez du carton, vous avez des planches, ça forme des ensembles immenses. Quand on traverse là, je dirais qu'il faut aussi, de manière consciente, lorsque je parle de tourisme, savoir ce que c'est qu'un bidonville à Lima. C'est impressionnant parce que ces zones où tout est gris avec le désert, vous avez ce ciel qui est d'une... C'est vraiment un ciel à la Jacques Brel. On pourrait se pendre rien qu'à voir ces ensembles comme ça sur des kilomètres et des kilomètres. Et des villes de province, elles n'ont pas échappé à cette arrivée massive des serranos, de ceux qui viennent de la Sierra. Piura, qui est tout à fait au nord, ça a augmenté d'un seul coup pratiquement 200 000 habitants. Chiclayo, c'est 300 ou 400 000. Trujillo, on a eu carrément un demi-million d'habitants en plus. Ica, qui est une toute petite ville. Patacrac, vous avez 100 000 personnes qui n'ont rien à faire là. Arequipa, c'est incroyable. Arequipa est une ville fantastique, printanière, dans une oasis, d'altitude à 2000 mètres. On a eu d'un seul coup un demi-million d'habitants en plus.
Mais alors pourquoi il y a autant de gens qui descendent à Lima?
Mais parce que vous allez le voir, la prochaine fois on traitera de la Sierra et vous comprendrez pourquoi ça attire tellement. J'ai parlé d'industrie, j'ai parlé d'agriculture, j'ai parlé de capital, j'ai parlé d'économie,
parce que plus haut,
de politique.
Y a rien.
Il y a autre chose. C'est un passé aussi qui est ailleurs. Je veux dire par là, quand on est indien des hauts plateaux, obligatoirement, on a envie de s'intéresser à ces villes champignons, on s'intéresse à l'idée de la pêche. Un bidonville, il se crée tout seul. C'est une descente massive des habitants de la Sierra qui tend vraiment à changer totalement la physionomie des villes de la côte. On grimpera dans la Sierra et on verra qu'ailleurs, on peut parler éventuellement quechua et qu'il y a justement un passé, un cas très, très, très différent.
Dimanche prochain.